Le Salon Noir. Découverte, l'année s'achevant en a fourni son lot, toutes aussi diverses les unes que les autres, mammouths, néandertaliens, trésors ou perles fines. Celles qui m'ont particulièrement ému dans ce salon noir remontent à plus longtemps, fruit d'un hasard, d'une chance extraordinaire, le coup de pioche de la délégation archéologique française en Afghanistan, découvrant sur le site d'Aïranoum et sous le tranchant de la lame, un des plus exceptionnels textes de notre histoire commune, rédigé par Platon et transcrit sur écorce de banane. L'archéologie, c'est bien entendu de la technique du savoir, c'est parfois et surtout la découverte de l'inattendu. Aujourd'hui, l'inattendu, mon invité l'a aussi découvert. Georges Boas, bonjour.
Bonjour.
J'ai lu Agathe Archite de Cnide, mais aussi Le Voyage de Néarque, Arien, l'Inde et l'Anabase. Mais aujourd'hui, ce que vous nous proposez est bien plus. L'histoire d'Alexandre, Alexandre le Grand, tout simplement. Professeur de langue et littérature arabe à l'École normale supérieure de Lyon, Georges Boas, vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France. Votre livre, que nous devons tous lire, n'est pas un coffee table book. Ces livres que l'on pose sur la table basse pour mieux affirmer la différenciation de son champ social. Il est pour autant un des grands livres de l'année. Le roman d'Alexandre à Tombouctou, l'histoire du bicornu, aujourd'hui publié par Actes Sud, l'École normale supérieure de Lyon et la bibliothèque Mama Aïdera. Georges Boas, l'histoire d'Alexandre aurait pu s'achever à Babylone ou à Samarcande. Tout au contraire, cela commence à Tombouctou.
En fait, elle aurait pu s'achever aussi à Tombouctou, si le hasard n'avait pas voulu que je passe par là. Puisque c'est en feuilletant un livre de droit dans le bureau du directeur de la bibliothèque Mama Aïdera que je suis tombé par le plus grand des hasards sur l'histoire du bicornu. Donc je feuilletais ce traité de jurisprudence et tout d'un coup je me suis dit mais ça n'a absolument rien à voir avec la jurisprudence, d'autant plus que peu à peu je reconnaissais dans le texte des personnages que j'avais déjà rencontrés en travaillant sur Alexandre Syriac et je suis remonté jusqu'au morceau de manuscrit qui est reproduit dans le texte, où il est marqué « Histoire du bicornu ». Et donc là, je me suis dit, c'est le roman d'Alexandre, et il est bel et bien parvenu jusque à Tombouctou.
C'est-à-dire que vous ne l'auriez probablement pas vu si vous n'aviez pas déjà traduit un Alexandre le Grand ?
Je pense que d'autres ont dû feuilleter ce livre, mais... comme ils n'étaient peut-être pas prédisposés, ils ont laissé passer, puisque ce texte était catalogué, donc le catalogueur n'a visiblement pas très bien fait son boulot ce jour-là.
En tout cas, les choses saintes et les belles histoires ne se trouvent qu'à Tombouctou, dit le proverbe malien, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait.
Donc une vraie chance et une grande découverte.
Je pense, oui, parce que personne n'aurait pu s'imaginer que le roman d'Alexandre, bien sûr, qui est allé dans toutes les langues d'Orient, que ce soit l'éthiopien, le copte, le syriaque. De notre côté aussi, Alexandre de Paris, 17 000 vers. Ensuite, aller jusqu'en...
La naissance de l'Alexandrin, c'est bien ça,
bien
si
sûr,
je m'abuse.
Bien sûr, bien sûr, puisque...
D'où son nom, d'ailleurs.
Mais bien sûr, puisque le roman commence comme ceci. Alexandre de Paris, donc deuxième moitié du XIIe siècle, qui vers de riche histoire veut entendre et oïr, pour prendre bon exemple et prouesse accueillir, de connoistre raison d'aimer et de haïr, de ses amis garder et chèrement tenir. Donc vous avez bien tout de suite reconnu les 12 syllabes Et comme il y avait 17 000 vers, on a donné le nom d'Alexandrin au vers de 12 syllabes. Donc, il est parvenu, bien sûr, là, c'est le roman, disons, l'Alexandre chevaleresque, hein, le héros chevaleresque. Mais il a continué jusqu'à Madrid. Et là, il y a Zouïa qui a fait une édition et traduction en anglais. Et très probablement, quand il y a eu la reconquête, il y a eu des gens qui ont voulu mettre le maximum de distance entre les reconquérants et eux-mêmes. Donc, ils sont passés par le Maroc et ils sont allés jusqu'à Tombouctou. Il y a même une grande bibliothèque de Tombouctou qui prétend qu'une bonne partie de son fonds vient directement de l'Andalousie.
Georges Boas, disons-le tout de suite, Tombouctou est une des mémoires de l'Afrique.
Ah oui, absolument. Tombouctou, on devrait parler des manuscrits arabes subsahariens, parce que on trouve des manuscrits en fait sur tous les pays, que ce soit le Niger, la Mauritanie. Mais Tombouctou, disons en tant que ville prestigieuse, on préfère dire les manuscrits de Tombouctou.
Oui, René Caillé, faire force aussi.
Voilà, en plus, oui. Mais disons, si on veut avoir une estimation, on a des gens qui disent qu'il y en a 900 000, on a des gens qui disent, oh là là, il y en a beaucoup moins. Moi, je me fonde sur les manuscrits qui ont été catalogués ou qui ont été vus. Ainsi, par exemple, il y a une mission allemande qui a estimé à 24 150 ou 24 250 les manuscrits de la Mauritanie. Moi-même, j'ai dépouillé les catalogues existants. Et donc, en étant minimaliste, c'est-à-dire en disant le moins possible, on arrive pour toute la région subsaharienne à 28 800 manuscrits catalogués, dont 15 500 pour la seule région de Tombouctou. Donc vous voyez, Tombouctou, c'est quand même la grande région, le grand pôle des manuscrits subsahariens.
Alors bien sûr, donc, vous le disiez, ce sont des centaines de milliers de volumes, traitant visiblement de tout sujet, mais où sont-ils exactement conservés ?
Alors, il y a deux types de bibliothèques. Il y a des bibliothèques, comment dirais-je, de petits propriétaires, quelqu'un qui a deux ou trois malles de manuscrits. Et puis alors, il y a des très grandes bibliothèques. J'en citerai que les deux principales. Donc, la bibliothèque Mama Haidara, qui, elle, contient 45 000 manuscrits, dont 6 000 ont été catalogués. Et 4 000, le catalogage a été publié par Al-Furqan à Londres. Et ce qui correspondrait chez nous à la Bibliothèque nationale, l'Institut Ahmed Baba, qui lui tourne autour de 29 000, je pense, et qui a dû en cataloguer 9 000.
Voilà. Alors justement, Georges Boas, que faisiez-vous là-bas, puisque vous ne cherchiez absolument pas d'Alexandre ?
Je ne cherchais pas Alexandre.
C'est la fameuse découverte fortuite, par hasard.
Oui, mais enfin bon, d'abord, c'est aussi par hasard, que je me suis intéressé aux manuscrits arabes subsahariens. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire mon livre qui s'appelle « Itinéraire d'un arabisant ». Le processus en moi de la connaissance. Le dernier chapitre est consacré à ma découverte à moi des manuscrits de Tombouctou. Mais donc là, j'étais simplement en mission pour explorer, pour discuter avec Abdelkader Haïdara les possibilités de coopération. Du reste, on a depuis on a signé une convention entre l'École normale supérieure et la bibliothèque Mama Haïdara. C'est à ce titre, du reste, que le nom de la bibliothèque Mama Haïdara figure sur la couverture du livre. Et donc, c'est au cours de cette mission, il faisait une chaleur abominable, on était vraiment fous d'y être allé au mois de mai. Il fallait vraiment être cinglé. Bien sûr, il faut mieux y aller au mois de décembre, janvier, ça j'ai fini par l'apprendre. Et il vaut mieux, comment dirais-je, c'est comme quand on projette un week-end, de dire je pars dimanche, non, vaut mieux dire je pars le jour où il fait beau. Comme ça, donc là, vaut mieux y aller quand il fait frais à Tombouctou. Et donc, on regardait toutes les merveilles que recèle cette bibliothèque. Bien sûr, Abdelkader avait été plus que coopératif. Enfin, disons, je pense qu'il est un des rares qui ait vraiment compris la relation qu'on peut instaurer entre un chercheur occidental et un propriétaire de bibliothèque. C'est du reste, disons, pour honorer sa démarche que l'École normale supérieure lui a décerné le titre de docteur honoris causa il y a un mois et demi.
Depuis avril, le nord du Mali et Tombouctou vivent sous le contrôle de groupes islamistes armés. On peut bien sûr craindre le pire.
On a des nouvelles certaines sur les méfaits qu'ils commettent sur les tombeaux, les petits édifices qu'il y a sur les tombeaux. Bon, ça, c'est bien triste, mais entre nous, c'est quand même pas une catastrophe parce que un petit édicule comme ça, on peut le reconstruire. C'est pas. Bien sûr, ils font ça pour se mettre en accord avec la pensée de l'islam wahhabiste, qui est que donc tout le monde étant égal, aucun signe distinctif ne doit marquer une tombe, parce que ça risquerait de provoquer des élans de piété qui s'adresseraient non pas à Dieu directement, mais à une de ses créatures, ce qui est donc une forme d'idolâtrie. Alors, est-ce qu'on sait ce que sont devenus les manuscrits ? D'après moi, ce que j'ai entendu dire, les manuscrits de la bibliothèque Mama Haïdara sont en sûreté. Je ne sais pas si tous les autres propriétaires ont réussi à les emmener à Bamako ou dans des caches, mais je ne pense pas qu'il y ait de grandes déprédations pour le moment. Et en plus, ces manuscrits, qu'est-ce qu'un brigand peut en faire ? Il faut encore trouver un acquéreur. Donc s'il y a des acquéreurs, ils peuvent venir que de chez nous. C'est-à-dire, c'est les trafiquants d'antiquités. Mais ces manuscrits, en soi, ne sont pas des chefs-d'œuvre. Ils ne remontent pas 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc, ils remontent au 15e siècle pour les plus anciens. Donc, il n'y a pas cette valeur intrinsèque, que a, par exemple, le manuscrit de la Bible qui est conservé à la Bibliothèque nationale.
À la BNF.
Voilà.
Sans être absolument catastrophiste, ne s'agit-il pas tout simplement d'un véritable iconoclasme qui s'étend bien sûr des confins de l'Asie centrale aux rives de l'Atlantique, avec de Bamiyan en Afghanistan jusqu'à Tombouctou. On annonçait récemment que d'ailleurs les pyramides de Gizeh devaient être rasées.
Oui, le Sphinx aussi.
Le Sphinx, oui.
Oui, ça, cette forme d'islam radical est effectivement une autre manière de concevoir l'iconoclasme, puisque ce n'est pas une image, là, c'est un monument qui pourrait amener le fidèle à rivaliser avec Dieu en priant le saint, au lieu de prier directement le créateur. Donc, c'est-à-dire prier la créature au lieu du créateur. Voilà, je pense que c'est pour éviter ça que ces destructions radicales sont mises en œuvre.
Ne peut-on d'ailleurs pas craindre un éventuel trafic mafieux ? Vous en parliez il y a quelques instants. Et que peut-on faire contre tout cela ? Bien sûr, la meilleure arme pour vous, c'est la numérisation. C'est une pratique désormais absolument courante et très efficace.
Bien sûr, il y a deux choses. D'abord, le directeur de la bibliothèque Mama Haïdara m'a dit « La seule chose que vous puissiez faire, c'est d'en parler le moins possible. » Si on doit, nous, évidemment, si j'ai caché les manuscrits, je ne vais pas vous dire où je les ai mis. Et moi, je ne vais pas vous le dire non plus, bien évidemment. Mais c'est sûr que la numérisation est une manière de sauver un manuscrit. Seulement, jusqu'à présent, les gens, particulièrement les petits propriétaires, faisaient preuve d'une grande, répugnance à laisser photographier leurs manuscrits. Parce qu'ils croyaient qu'on allait les voler, en quelque sorte. Je cite l'exemple d'un petit propriétaire. J'avais repéré dans sa caisse un manuscrit qui était une grammaire mystique, et il m'intéressait. Et je lui ai dit, tu me permets de le numériser pour faire une étude à ce sujet. Il me dit, écoute, si tu veux le numériser, tu commences par reconstruire le toit de ma maison. Je lui dis, moi, je ne suis pas maçon, je ne peux pas. Donc, je ne l'ai pas numérisé. Mais maintenant, j'espère qu'ils vont prendre conscience que quand on numérise un manuscrit, on le sauve. Et même les grandes maisons, je pense, réalisent qu'elles n'ont pas assez numérisé leurs manuscrits. Et on peut espérer que ça leur servira de leçon. Enfin, disons, si une catastrophe peut servir de leçon, ça serait une bonne chose qui pourrait jaillir de cette catastrophe, c'est que tout le monde se mette à numériser les manuscrits. Bien évidemment, il y a les grands techniciens de l'image qui vont vous dire « Ouh là là, si nous on veut utiliser ça, il faut que ça soit fait avec telle machine, super sophistiquée, tout ça. » Bon, cela, d'accord. Mais pour sauver un manuscrit, un bon appareil photo ordinaire peut faire l'affaire. Il faut distinguer entre la numérisation de sauvetage et la numérisation qui est pour exploitation scientifique, des, disons du raffinement de l'image, de l'étude des caractères et des choses comme ça. Donc il y a deux types, là aussi, il y a deux manières de procéder.
Georges Boas, disons-le tout de suite, ce volume que vous avez découvert sur Alexandre est une vie romancée, bien sûr, d'Alexandre. On peut le dater à peu près de quelle époque ? C'est toujours très difficile pour ce genre de texte, bien sûr.
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'en ce qui concerne la littérature populaire, il y a deux choses qu'il ne faut pas demander, c'est le nom de l'auteur et la date du manuscrit. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où la littérature populaire est quelque chose qui se développe, le meilleur manuscrit, c'est le dernier. Parce que là, on a vraiment l'état le plus abouti du roman. Je l'ai vérifié ça avec Baybars et on le vérifie exactement ici. Je vous donne un autre exemple. Il y a un conte des Mille et Une Nuits que Floréal Saint-Augustin, qui travaille avec moi, est en train de traduire, qui a été traduit par Mardrus sous le nom de la Doc de Sympathie. Disons Tawad Dod en arabe, Tawad Dod al-Jariya, c'est-à-dire l'esclave chanteuse Tawad Dod. Dans les Mille et Une Nuits, le conte est 5 fois plus petit qu'à Tombouctou. Oui, donc il a bien profité, disons, dans le voyage.
Alors, vous avez bien sûr évoqué son cheminement, probablement de l'Espagne vers Tombouctou. Alors, les découvertes me paraissent encore d'autant plus extraordinaires que vous avez publié en 2009 un Alexandre syriaque, donc une œuvre qui, par force, est bien plus ancienne.
Ah, bien sûr, oui. Donc, l'Alexandre syriaque, là-dedans, j'ai réuni tous les textes qui traitent d'Alexandre, sauf le pseudo-Callisthène, parce qu'il y a une version syriaque du pseudo-Callisthène, et ça, ce serait un ouvrage en soi. Il a déjà été traduit en anglais, enfin édité et traduit en anglais par Budge, avec, disons, cet homme fait à peu près un contresens par page. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement besoin de revoir la traduction. Et le roman d'Alexandre syriaque, ce qu'on appelle la légende d'Alexandre et puis l'homélie du pseudo Jacques de Sarrug ont été particulièrement bien étudiés par Reining, qui a fait l'édition remarquable. Et moi, j'ai eu la chance qu'il accepte de revoir mot à mot ma traduction. Disons donc ça, c'était un des avantages que j'ai eu en travaillant sur Alexandre syriaque. Donc le premier récit là, il est même parvenu à le dater aux alentours de 628. Donc, vous voyez, c'est extrêmement...
Bien plus ancien,
exact.
En tout
oui,
cas.
Oui, oui, bien sûr.
Pour nos auditeurs du Salon d'Art de France Culture, je rappelle, Georges Boas, que vous êtes professeur de littérature arabe à l'École Normale Supérieure de Lyon, membre de l'Institut Universitaire de France, et que vous avez surtout donc retrouvé et traduit le roman d'Alexandre à Tombouctou, l'histoire du bicornu. Puisque nous parlions de l'Alexandre syriaque que vous aviez aussi traduit, on peut dire que cet Alexandre-là est une sorte d'Alexandre chrétien, déjà.
Oui, je dirais même biblique. Si vous voulez, je vais vous lire un petit passage qui va vous montrer qu'on voit bien, c'est le Dieu puissant de la Bible. Donc, Alexandre prit ensuite sa couronne et son habit de pourpre qu'il déposa devant le Seigneur en disant « Toi, Seigneur, tu as pouvoir sur ma vie et mon royaume, et c'est à toi qu'appartient la royauté. Délivre ton serviteur et son armée de leurs ennemis. » Et tandis qu'Alexandre priait, les rois et leurs troupes l'encerclaient. Alexandre reprit en proclamant « La victoire est au Seigneur !» Et son armée fit écho « Dieu vient à notre secours !» Alexandre poursuivit « Seigneur, qui t'es manifesté à moi sur cette terre, secours-nous » Alors le Seigneur apparut monté sur le char des séraphins. Précédé des veilleurs et des anges qui proclamaient sa louange, il conduisit son armée vers le camp d'Alexandre et il apparut debout à l'ouest. Tout le camp d'Alexandre se tourna vers le Seigneur qui venait à sa rescousse et le peuple reprit courage car le Seigneur était venu pour les sauver. Donc vous voyez, on se trouve en plein Ancien Testament.
Ah oui, tout à fait. Deux mots peut-être sur le syriaque, une langue, un dialecte issu de l'araméen, toujours actuellement parlé.
Alors, on appelle syriaque, en gros, l'araméen chrétien. Alors, actuellement, c'est encore...
Que vous enseignez d'ailleurs.
Oui, oui. C'est encore la langue liturgique des églises orientales, syriaque et nestorienne. Enfin, les nestoriens n'aiment pas qu'on les appelle nestoriens. Disons, ils s'appellent l'église orientale. Donc c'est aussi la langue liturgique de l'Église orientale. Bien sûr, la plupart de ces gens parlent aussi des dialectes araméens, mais c'est des dialectes araméens modernes, ce n'est pas du syriaque. Vous voyez, en syriaque, il y a exactement le même phénomène qu'en arabe, on a une langue classique et des dialectes. D'accord, c'est ce qu'on appelle la diglossie.
Ce texte syriaque aurait bien sûr été publié par une communauté chrétienne, mais aussi durant une période troublée du Proche-Orient, donc le début du 7e siècle.
Bien sûr, c'est l'époque de la guerre entre Byzance et la Perse, l'époque où Héraclius a reconquis pratiquement tout l'Empire byzantin qui avait été envahi par les Perses. C'est avec ça que Reinink a réussi à, en corrélant tous les événements historiques, à dater la légende d'Alexandre de 628.
Et est-ce qu'Alexandre d'ailleurs a une place particulière dans la littérature chrétienne d'Orient?
Vous savez, Alexandre, on le retrouve partout. Même certains de ses stratagèmes sont encore connus. Mais c'est comme chez nous. Enfin, regardez, même les gens parlent d'Alexandrin sans savoir que ça remonte à Alexandre. Il a vraiment imprégné. C'est le seul grand chef qui n'ait jamais été battu.
Oui, bien sûr. ce propre texte, donc, Alexandre Syriaque, serait un emprunt, lui, à un document grec encore plus ancien, que l'on appelle le pseudo-Callisthène, c'est ça? Vous commencez à en parler tout à l'heure.
Alors, le pseudo-Callisthène, disons, là, je pense qu'on faut bien distinguer entre l'Alexandre de l'histoire et l'Alexandre de la légende. L'Alexandre de la légende, il prend source dans le pseudo-Callisthène, qui est un texte du IIIe siècle, et qui a été traduit dans pratiquement toutes les langues de l'Orient ancien. Et fort curieusement, on retrouve dans le roman d'Alexandre à Tombouctou des passages
de ce pseudo-Callisthène,
pratiquement mot à mot du pseudo-Callisthène. Mais là, il faut que je vous explique quand même un petit peu. Bien sûr, le roman, le pseudo-Callisthène, c'est une des sources du roman d'Alexandre à Tombouctou, mais il y a aussi le Coran.
Oui, tout à fait.
C'est aussi le Coran. Et alors, donc, dans le Coran, c'est la sourate Al-Kahf, du verset 82 au verset 98. Et il y a beaucoup de passages de versets qu'on retrouve recommandés, resitués à travers le roman. Bien sûr, d'abord le fait que Alexandre est envoyé non pas comme un prophète, mais comme un roi. Alors, dans le Coran, il y a ceci, nous dit « O Dhulqarnayn, à toi ou de tourmenter ce peuple ou d'accomplir du bien envers lui ». C'est-à-dire que là, c'est en tant que roi qu'il y va, c'est pas en tant que prophète. Bon, il y a aussi le fameux passage, « Nous l'avons établi sur la terre et nous l'avons comblé de toutes choses, il suivit donc une corde céleste ». Ça, personne ne sait absolument de quelle corde il s'agit. Tous les traducteurs ont essayé d'interpréter ça à leur manière. Autre chose qui, bien sûr, se trouve dans le Coran, c'est l'histoire du barrage, de la grande barrière contre Gog et Magog. Dans le Coran, c'est deux versets, tandis que dans le roman d'Alexandre Syriaque, là, c'est 20 pages au moins. Mais là, dans le Coran, c'est simplement ceci. Ensuite, il subit une corde céleste, jusqu'à ce qu'étant parvenu entre les deux digues, il trouva, en deçà d'elle, un peuple qui ne pouvait comprendre un langage. Ces gens dirent « Ô Dhulqarnayn, les Gog et Magog sèment le désordre sur la terre. Pourrions-nous te remettre une redevance, à charge que tu établisses une digue entre eux et nous ?» etc. Alors, il y a la construction aussi, c'est très rapide, là, dans le Coran, deux versets. « Apportez-moi des blocs de fer. » Quand il eut comblé l'espace entre les deux versants des monts, il dit « Soufflez ». Et quand il eut fait du fer, une masse de feu, il dit « Apportez-moi de l'airain que je verserai sur ce fer. » Bien sûr, les Gog et Magog ne peuvent pas interrompre jusqu'au jour de la résurrection.
Alors, tout le livre relate l'histoire du bicornu. J'ai attendu la page 70 pour savoir enfin ce qu'était ce bicorne porté par notre grand roi. Et alors, surprise, formidable. Un très beau passage, bien sûr.
Mais il y a un autre passage aussi qui est une autre manière d'interpréter.
Alors, vous nous dites ce que c'est que ces cornes?
Alors, donc,
l'individu dont vous parlez, le roi est bicornu.
C'est les deux cornes du monde, les deux extrémités du monde.
Bien sûr, il tient dans sa main
l'Orient et l'Occident.
L'Orient et l'Occident.
Mais il y a un autre passage dans le texte. Je peux vous prendre le temps de le regarder. Donc, ça c'est tout au début des enfances du bicornu. Donc, sa mère cherche un précepteur. Elle finit par en trouver un bon. Et il s'appelle Aristote. Alors, elle lui confia son fils, elle le couvrit de cadeaux. Donc, ils enseignaient jour et nuit, ils travaillaient. Et donc, alors, Dieu l'envoya à ses créatures, avec rang d'envoyé à son peuple, afin qu'il appelle ses créatures à la religion de Dieu et qu'il les informe des signes de Dieu, qu'il leur explicite ses preuves et leur enseigne que Dieu est omnipotent sur toutes choses et qu'il embrasse toutes choses dans sa science. Ça, c'est un verset coranique. Qu'il est l'ancien, l'éternel, avec lequel rien ne coexiste. Qu'il est l'ancien, le perpétuel, et qu'il a créé toutes choses à partir de rien. Son peuple le traita de menteur, et ils fondirent sur lui, s'en emparèrent et le frappèrent violemment sur sa corne droite, au point de la briser, ce qui provoqua sa mort. Dieu le ressuscita, le tirant de son sommeil, pour le renvoyer à son peuple. Comme la première fois, il leur prodigua des ordres et des interdictions, si bien qu'à nouveau ils le frappèrent, ils lui cassèrent la corne gauche, et il en mourut. Ensuite, Dieu le ressuscita, et fit pousser à la place des cornes deux houppes lourdes, épaisses, dures comme le fer, qui finirent par lui couvrir toute la terre, et qu'aucun sabre ne pouvait couper, sinon par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on l'appela le bicornu.
Très beau. Alors en tout cas, puisque le temps tourne et qu'il nous reste absolument que quelques minutes, voire quelques secondes, rappelons qu'il croise Diogène, c'est bien sûr la bataille contre Darius, c'est aussi des personnages et des monstres absolument étranges, certains même flottant dans une sorte de dérive infinie jusqu'à la fin du monde sur un bout de bois. Et puis, bien sûr, le livre s'achève et on perçoit enfin, bien sûr, la mort d'Alexandre. Le bicornu va mourir.
Oui, sur une terre de fer et sous un toit de bois.
Georges Boas, le manuscrit de Tombouctou s'interrompt d'un seul coup, brusquement. L'aventure d'Alexandre continue toutefois, mais peut-être à nous de la découvrir ailleurs, dans quelques autres livres, voire peut-être aussi tout simplement la réinventer.
Peut-être pas être pas la réinventer, mais on arrivera peut-être à trouver d'autres manuscrits. C'est ça, il y a une telle masse de manuscrits. Si on suit l'estimation de Zuber, 900 000, bon, on en est encore loin. Et on trouvera peut-être un deuxième manuscrit qui nous permettra de compléter les aventures d'Alexandre à Tombouctou.
Georges Boas, un dernier mot. Ce qui vous anime, c'est de trouver du neuf?
Absolument, toujours.
Georges Boas, merci beaucoup. À lire donc absolument le roman d'Alexandre à Tombouctou, l'histoire du bicornu chez Actes Sud, mais aussi Alexandre Syriac à l'Institut des langues de l'Orient ancien et moderne. Enfin, le plus long texte du monde que vous avez traduit, Georges Boas. Un texte absolument extraordinaire, une aventure très drôle, bien sûr le roman de Baïbar, avec deux titres que je citerai sur la dizaine qui sont ou qui devraient paraître, Fleurs des truands ou Les bas-fonds du Caire, pour tout savoir donc sur cet univers proche-oriental. La semaine prochaine, nous verrons comment les élites gauloises ont retourné leur veste au profit de Rome. Bien sûr, l'histoire peut-être d'un des premiers collaborateurs de l'histoire de France. Le Salon Noir était réalisé par Ghislaine David, à la technique Élise Le, attachée d'émission à Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr où retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.